voudrais vous parler toujours de cette doctrine du pur amour, cette doctrine de l'abandon, cette doctrine de l'union de volonté, de l'abandon à la providence. Comment la relier au combat spirituel? Car le combat spirituel appartient à notre carte d'identité du chrétien. Nous serions tentés de penser que saint François de Sales accorde finalement peu de place à l'ascèse et à la mortification et au combat spirituel. Vous avez entendu ce matin, saint François de Sales est tout particulièrement sensible à cette ascèse qui est la mortification de la volonté propre. Et donc nous pourrions penser que le primat de la grâce est tellement présent chez lui que chercher à pratiquer le combat spirituel, ascèse et mortification, ne relèverait pas de la visitation et serait éloigné de la spiritualité salésienne. Je ne vous cache pas que j'ai fréquenté plusieurs monastères de la visitation. Il y a parfois, moi qui ne suis pas compétent, un petit discours qui me gêne. Voilà, on est tellement dans l'abandon chez les visitandines qu'il n'y aurait pas de place pour la mortification. Je pense que cela ne correspond pas à l'enseignement de François de Sales, à cette doctrine toute d'abandon. Ce que vise François de Sales, c'est adapter à chacun selon sa santé, petite santé, mais de dire qu'il n'y a qu'une mortification de la volonté propre ne me paraît pas correspondre à toute la tradition, grande tradition spirituelle. La preuve en est, le jeune saint François de Sales fit ses études de droit à Padoue, en Italie, vers 1590. Et il découvrit ce monument de la tradition spirituelle qui s'appelle le combat spirituel de Lorenzo Scupoli. Il est édité en français, vous pouvez le trouver assez facilement. Il en fut particulièrement nourri. Lui, le héros de la doctrine du pur amour, il nous dit que ce monument du combat spirituel l'a nourri extrêmement. Il écrit à Sainte Jeanne de Chantal en 1607 « Ma chère fille, lisez le 28e chapitre du combat spirituel qui est mon cher livre et que je porte en ma poche il y a bien 18 ans. À Monseigneur Camus, dont je vous ai évoqué la figure ce matin, cet évêque ami, complice spirituellement, il dit, François de Sales, « Dès ma jeunesse, Scupoli, le combat spirituel, c'est mon maître aux choses de l'esprit et de la vie intérieure. » Que ce soit clair, même si François de Sales adapte la vie spirituelle avec les santé de chacun et la grâce de la visitation, c'est que des petites santé puissent rentrer et atteindre un haut niveau de sainteté. Vous m'entendez, mes sœurs? Vous n'êtes pas le Lidl, le low cost de la vie religieuse. Vous pouvez atteindre un haut, très haut, parce que, supposons, votre santé est déficiente. Mais, quand on a dit cela, il faut être extrêmement équilibré. La mortification, le combat spirituel, la détermination dans l'acquisition des vertus fait partie intégrante de la doctrine spirituelle de Saint François de Sales. Je vais vous dire, si ce n'était pas le cas, il ne pourrait pas être docteur de l'Église. Je vous propose deux grandes parties, comme ce matin. Le combat pour la vertu, et puis on va porter un regard à laquelle François de Sales accordait une énorme importance, l'humilité, la vertu toute spéciale, petite vertu d'humilité. Le combat pour la vertu, première partie. Frères et sœurs, nous naissons tous marqués par le péché originel. Le Christ, en sa mort et sa résurrection, a rétabli l'alliance, il a guéri le cœur de l'homme, mais il demeure en nos cœurs une conséquence du péché originel que l'Église, dans sa tradition, appelle la concupiscence. Catéchisme de l'Église, 1426. La vie nouvelle reçue dans l'initiation chrétienne n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence et qui demeure dans les baptisés. Le Christ a tout réparé, mais il a laissé une conséquence du péché originel en nous. Pourquoi ? Parce que c'est à nous de participer à l'œuvre de reconstruction de notre âme, bien évidemment, avec sa grâce, en luttant contre la concupiscence. De manière, si vous voulez, un peu comme si un jour vous avez eu une jambe cassée. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir ma jambe dans une gouttière en plâtre, parce que j'ai cassé, dans un truc de sport, je pense, la moitié de mon ménisque. Ils ont opéré, et puis après, ils ont dit « Ah, attention, mon père, on ne peut pas rétablir à votre place les muscles. Il va falloir que vous fassiez un travail avec le kiné. » Et donc, le combat contre la concupiscence, c'est ton travail de rétablissement, ta remusculation. Afin que tu aies une âme qui soit vraiment décidée pour Dieu. Et ce qui est extraordinaire, voyez-y quelque chose de très positif, c'est que Jésus te fait coopérateur de ta propre sainteté. François de Sales. Dieu hait le péché souverainement, et pourtant sa sagesse le permet, il le permet pour laisser sa créature raisonnable agir selon la nature qui lui est donnée, et que pour que les bons grandissent dans son estime, puisque pouvant violer la loi, ils ne le font pas. Adorons, bénissons la permission divine qui permet que nous ayons la concupiscence. Mais puisque la providence est infiniment le péché, tout en le permettant, haïssons-le avec elle. Quel est le double travail que nous allons avoir à opérer avec la concupiscence? C'est intéressant parce que là, je vous ai dit ce matin que notre François de Sales est très imprégné de saint Thomas d'Aquin. Il est aussi imprégné de Jean de la Croix. Énormément. Et là, pour avoir lu en parallèle les deux œuvres, je vois qu'il y a une parole quasi explicite notée dans les écrits de Saint Jean de la Croix, que vous retrouvez donc chez François de Sales. Il dit « Il ne suffit pas que vous quittiez le péché, encore faut-il détachez votre cœur de tous les liens qui découlent du péché. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais dans les œuvres complètes de Saint Jean de la Croix, il utilise à un moment l'image du petit oiseau qui a posé ses petites pattes sur, par exemple, un sapin dans lequel il y a de la glu qui sort de l'arbre. Et il dit, il faudra que le petit oiseau non seulement se détache de la colle, de la glu qui le retient à l'arbre, mais il faudra en plus qu'il nettoie la glu, parce que s'il se repose avec sur cette glu sur une autre branche, il collera à nouveau. Et vous avez là ce que dit Jean de la Croix quant à la concupiscence. Vous avez là toute la doctrine des détachements. Si vous me permettez d'évoquer à nouveau la figure de Mercédès, c'est fou ces âmes-là qui vivent dans l'Esprit Saint. Elles voient les choses comme Dieu les voit. Je commençais tout juste à prêcher, tout juste à écrire mes premières retraites, et elle me dit un jour, « Mon père, il faudra que vous écriviez sur les détachements. Les gens en ont énormément besoin, et les religieuses aussi. » Et je me disais, quand je l'ai entendue, « Mais qu'est-ce que je peux bien écrire? Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs de détachement ?» Et quand c'est l'heure de Dieu, eh bien vous écrivez sur les détachements. Et vous écrivez des choses qui vous surprennent, parce que c'est lui qui les écrit. Et je donne cette retraite des détachements régulièrement dans les monastères. J'en vois énormément les fruits. Alors vous allez me dire, mais alors, c'est du genre, ça taille la route, ça casse. Non, pas du tout. Quand la personne entre dans les détachements, elle est comme le petit oiseau. Elle est libérée, elle ne colle plus. Et ce qui fait que les gens sont beaucoup plus heureux. Mais pour être plus heureux, il faut se détacher. Vous avez bien entendu? Il ne suffit pas que vous quittiez le péché, la concupiscence, il faut en plus détacher votre cœur de tous les liens qui découlent du péché. Alors, avec François de Sales, c'est toujours le théologal qui traverse tout ce qu'il dit, tout ce qu'il enseigne. Ne voyez pas chez François de Sales un moralisateur, un moralisant. Chez lui, le moral, la vie morale, le combat spirituel pour les vertus morales est toujours informé, je veux dire guidé, par cette colonne vertébrale de mon âme et Dieu. Comment expliquer ça? Je vais faire un détour par les pères de l'Église. Il y a un grand père de l'Église qui s'appelle Maxime le Confesseur, qui, je crois, on lui a coupé la langue, mais ça ne l'a pas empêché d'annoncer la vérité. Il dit ceci, « Le Christ est la quintessence des vertus. » Autrement dit, toutes les vertus que vous voudriez pratiquer et pour lesquelles vous peinez, c'est lui la source des vertus. Bien. Vous avez donc deux solutions. Soit vous allez pratiquer les vertus à partir de votre propre force. Et comme vous n'êtes pas Dieu, que vous n'êtes pas la quintessence des vertus, eh bien vous allez vous épuiser, vous allez vous décourager. Et ça va produire des catholiques amers. Vous avez une autre solution. Jésus, j'y arrive pas. Mais toi, tu es la quintessence des vertus. Je vais me brancher sur toi. Et les vertus que j'ai tant de peine à réaliser, à faire grandir dans ma vie chrétienne, je vais pouvoir, parce que le maître de l'impossible rend possible ce qui ne m'est pas possible par mes propres forces. François de Sales. Ouvrez grand votre cœur pour en extraire les péchés, à mesure qu'ils en sortiront les précieux mérites de la passion y entreront et le rempliront de bénédictions. Revisitez chacun, chacune, vos combats pour la vertu. L'un, ça va être la patience. L'autre, ça va être ceci. L'autre, ça va être la colère. L'autre, ça va être l'orgueil. L'autre, ça va être la capacité, comme on l'a dit ce matin, d'aimer le frère, la sœur, qui m'est pénible. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu vas trop puiser en toi les forces pour aimer, pour combattre ta colère. Ça t'est impossible. Mais le maître de l'impossible, cela lui est possible. Je vais vous dire ce que je viens de dire, c'est pareil pour le pardon. Qui parmi vous n'a pas des pardons difficiles à dire? Ça, c'est une autre constante que j'ai remarquée dans les âmes, à travers les retraites. Pourquoi les personnes ont de la peine à pardonner à telle personne? Parce qu'elles veulent pardonner avec leur capacité de pardon humaine. Et elles n'y arriveront pas. Je fais un petit tour par Thérèse. Thérèse dit, « Oh, je voudrais aimer mes sœurs comme vous les aimez, mais je me rends bien compte, je n'en suis pas capable. Depuis que j'ai compris que plus je m'unissais à Jésus, plus j'aimais mes sœurs. Vous allez rentrer chez vous, vous allez avoir telle vertu difficile, par exemple ce qu'on vient d'évoquer. Jésus, j'y arrive pas, remplis-moi de toi. » Et vous serez tout surpris. Mais ça suppose une petite sensibilité de vie intérieure. Comme je vous ai dit, avec ce monsieur qui m'a accosté dans le noir et qui parlait. Si je n'avais pas demandé au bon Dieu, je fais quoi? Je dis quoi? Eh bien, je serais sorti énervé, agacé de cet entretien. Revisitez vos vertus. Et quand vous sortez de cette expérience où vous laissez Dieu prendre les choses en main dans les riens du quotidien, dans l'ordre de la vertu, vous en ressortez automatiquement régénéré parce que c'est Jésus que vous laissez faire. Il y a à voir avec vitose, au cas où, réceptivité. Première note, toujours dans notre point après ces mots d'introduction importants. On ne voit bien son péché qu'une fois sorti du péché. Il faut comprendre que le péché aveugle l'âme sur elle-même et elle ne se rend pas compte de son péché. Seule la Vierge Marie qui est hors péché voit la vérité de ton péché. Seul l'Esprit Saint qui est hors péché voit la gravité de ton péché. Voilà pourquoi, quand vous préparez votre confession la prochaine fois, eh bien, je veux bien que vous utilisiez un examen de conscience, comme on dit. Mais le premier examen de conscience, c'est de demander à Dieu, toi qui es hors péché, et toi qui connais le péché, parce que moi-même qui suis pécheur, le péché m'aveugle moi-même sur mon péché. Montre-moi mon péché. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais un petit lapsus d'un enfant en catéchèse dit bien les choses. La catéchiste les avait préparés avec beaucoup d'ardeur et de ferveur à la confession, elle avait donné un examen de conscience, et puis il fait un lapsus, et il dit, « Madame, j'ai fait mon examen de confiance. C'est pas que gentil, mes sœurs. Ce petit bout d'homme avait compris les choses. La préparation à la confession est d'abord une confiance en Dieu qui est hors péché. » La Vierge Marie qui est hors péché et qui donc va connaître mon péché mieux que moi-même parce que le péché n'est jamais neutre, il aveugle le péché sur lui-même. François de Sales. À mesure que la lumière du jour se lève, nous voyons mieux dans le miroir la malpropreté de notre visage. À mesure que la lumière du Saint-Esprit éclaire notre conscience, nous voyons plus distinctement nos péchés, nos inclinations, nos imperfections, qui sont autant d'obstacles sur le chemin de la sainteté. Mais la même lumière qui nous les fait voir avive aussi en nous le désir de nous en libérer. Adoptez ça, chers amis, et vous verrez, vos prochaines confessions ne seront pas vécues de la même manière. Beaucoup de catholiques disent « Oh, quelle corvée, il faut encore y passer !» parce qu'ils regardent tout à partir de leur nombril, comme si c'était un acte d'humiliation à faire devant le curé. Mais vous ne comprenez donc pas. Voyez donc le Jésus derrière le prêtre. Moi, je me suis confessé il y a 2-3 jours, profitant parce qu'il y avait des prêtres au kilomètre carré. Donc j'en ai profité, je me suis confessé. Mais je ne vois pas le prêtre, je vois Jésus derrière le prêtre. D'autre part, arrête de considérer que c'est toi. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais demande donc, bon Dieu. Puis en plus, c'est plus reposant, je peux te dire. Deuxième note. Un cœur qui aime, aime les commandements. Tout se tient, chers amis. Le péché, émoussant la conscience morale, puisque je vous ai dit, le péché aveugle le pécheur sur lui-même. Eh bien, au bout d'un moment, il va considérer les commandements comme des trucs de rabat-joie, pénibles. Et il ne va pas comprendre que les commandements sont une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, à l'intérieur de l'Église, regardez la difficulté que les prêtres, s'ils sont véritablement catholiques, ont une grande difficulté à annoncer la vérité des péchés, parce que la clientèle catholique n'en veut plus. Elle ne veut entendre parler que d'épanouissement. Non, il n'y a pas de péché, mon père. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Ok. Ah bon? Et donc, si le prêtre se laisse prendre par l'esprit du monde qui règne à l'intérieur des communautés catholiques, eh bien, il va annoncer un évangile catholiquement correct. Un évangile que la clientèle veut entendre, mais qui n'est plus l'évangile. Sous prétexte de ne pas choquer les gens. C'est amusant parce que le moindre médecin, je parle au niveau professionnel, le moindre médecin, comme nous sommes dans une logique de mentalité procédurière, le moindre médecin qui ne dirait pas, le sachant, à un patient sa maladie et qui ne lui donnerait pas les médicaments en conséquence, ce gars-là, il se prend une prune, il se prend un procès. Et on devrait faire des procès aux médecins des âmes que sont... faites-moi un procès à moi, les autres, ils ne sont pas là, je ne vais pas répondre. Mais faire un procès aux médecins des âmes parce qu'ils ne disent pas les maladies de l'âme. Et on laisse les gens pourrir dans leur malheur, sous prétexte de les aimer. On ne les aime pas. Un véritable médecin qui aime ses patients. Si par exemple un patient mange trop de chocolat, je vous prends un truc sympathique, comme ça fait avaler la pilule. Il mange trop de chocolat, il est bon que le médecin dise, vous savez, ça peut faire des crises de foi. Mais un curé n'a pas le droit de dire que le péché, ça crée des crises de foi, mais de la foi. FOI. François de Sales. Pour développer en nous l'amour des commandements de Dieu, nous devons les considérer dans leur beauté, qui est admirable. Un cadeau fait d'autant plus plaisir qu'il est offert par un ami. Les plus doux commandements seraient bien amers s'ils étaient imposés par un tyran, mais ils deviennent aimables si c'est l'amour qui les ordonne. Oh, qu'il est doux et désirable le joug des commandements et de la loi divine, qu'un règne, qu'un roi si digne d'être aimé a établi sur nous. Et c'est le titre du propos. Voici ce que dit François de Sales. Un cœur qui aime, aime les commandements. Et plus ils sont difficiles, plus il les trouve doux et agréables, parce qu'en les observant, il donne plus de joie et de gloire à son bien-aimé. Troisième note. Toujours le combat pour la vertu. Mener le bon combat avec la grâce de Dieu. Avez-vous remarqué, comme dans nos discours spirituels, spontanément, on oppose abandon spirituel et combat spirituel, alors qu'on devrait les lier. Je vais le montrer en quoi. Le combat spirituel doit être mené à partir de la grâce de Dieu. Vous avez entendu, j'ai été assez clair là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens un peu raides, un peu amers, parce qu'ils se reposent trop sur leur vertu, et comme ils n'y arrivent pas, ils finissent par désespérer de la vertu. Et si vous voulez être véritablement chrétien, il faut être du Christ. Et être du Christ, c'est quoi? C'est se brancher, je l'ai dit, sur le Christ, la quintessence des vertus, pour réaliser des vertus que tu as de la peine à faire dans ta vie. Alors regardez comment l'abandon est en quelque sorte un écrin qui enchasse, dans lequel est enchâssée la belle bague que vous avez offerte à votre épouse il y a de nombreuses années. Elle en a peut-être une deuxième, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, la bague du combat spirituel est enchâssée dans cet écrin qu'est le combat spirituel. Quel abandon, pardon. Je vais devoir, si vous suivez ce que je dis, je vais devoir, pour pratiquer le combat spirituel, je vais devoir m'abandonner avant l'exercice de la vertu à la grâce qui va me permettre. Donc déjà, abandon précède le combat spirituel. Ensuite, je vais y venir tout à l'heure, dans le combat lui-même, on a du vertige, j'y arrive pas. Dans le combat lui-même, au secours vient grâce de Dieu en moi. Ensuite, après le combat, si vous avez réussi, la grâce va se poursuivre par quoi? Par l'action de grâce et le remerciement, parce que Dieu vous a donné la grâce. Et alors c'est extraordinaire. Même si vous veniez à pécher dans une vertu que vous voulez opérer, réaliser et que vous ratez, eh bien, la suite du combat spirituel, ça va être de s'abandonner à la grâce de Dieu, à la miséricorde de Dieu, alors qu'on est tombé. Vous avez donc compris que l'abandon précède le combat. L'abandon à la grâce de Dieu est concomitant du combat au moment de la bataille. Et puis après la bataille, que j'ai réussi ou que j'ai raté, et il y aura encore un abandon à la grâce de Dieu, qui soit remercie Dieu d'avoir donné sa grâce parce qu'on a réussi, soit qui s'abandonne alors qu'on s'est planté dans une orière à la miséricorde de Dieu. François de Sales. Il est vrai que je n'aurais pas la force de faire ou de supporter telle chose de moi-même, mais je m'en réjouis, d'autant que Jésus, ce sera votre force qui le fera en moi. Là, notez cette dernière phrase, enfin, la notez pas forcément sur un papier, la notez dans votre âme. C'est ta force qui le fera en moi. Et il ajoute, et sur cet appui, allez à la bataille courageusement, et ne doutez point que vous remportiez la victoire. Quatrième note, persévérance. Je ne vais pas trop y étendre parce que vous reconnaissez sans doute un des éléments de l'homélie de ce matin, vous vous rappelez ? Les hommes d'un moment, les cœurs qui flambent et non pas qui durent. Je vous dis juste au passage, dans le contexte actuel auquel nous n'échappons pas, où nous avons tout, tout de suite, et les cathos sont pareils que les autres, eh bien, la tentation est très grande de s'installer dans un zapping des émotions. Et les gens ne savent plus durer. Regardez comment le nombre de mariages catholiques explose en plein vol. Regardez comment le nombre de consacrés au premier vague à l'âme, « Oh ben j'ai dû me tromper », sauf que la personne ne s'est pas trompée de vocation. C'est sa première grande purification. Et dans les couples, il est inévitable de connaître des déceptions. Il ne faut pas en rester à la déception. C'est fait pour une maturation, une purification, pour aimer l'autre davantage avec amour, don, sans retour sur soi-même. C'est la même problématique pour les prêtres et pour les religieuses. Tiens, je vous dis ça au passage, c'est une chose qui m'a beaucoup marqué depuis un moment, puisque je prêche de plus en plus à des prêtres. Beaucoup de prêtres connaissent ce que Madeleine Delbrel, vous savez, la grande apôtre des milieux communistes, des villes rouges de la ceinture de Paris, appelle les 10 ans du militant. Et donc, il y a beaucoup de prêtres, en fait, mais ils ne s'en rendent pas compte, ils sont très généreux. Ils rentrent, et puis au bout de 10 ans, ils ont fait le tour. Ils ont fait le tour de leur ministère. Et c'est pareil pour des religieuses. Et tout d'un coup, elles veulent changer, quitter le sacerdoce, changer... Ah tiens, si je devenais coach... voilà, voilà. Tout un tas de choses comme ça. Ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas du tout un nouveau truc qui va les combler. C'est de descendre dans leur vocation actuelle qui les changerait s'ils descendaient avec Jésus. Tout prêtre a besoin, toute religieuse a besoin de vivre une purification. Il y a parfois des appels à changer qui sont réels, il y a parfois beaucoup de choses qui sont fausses. Mais si la personne n'est pas humble, vous pourrez lui dire 100 fois, elle ne verra pas parce qu'elle ne veut pas le voir. Introduction à la vie dévote. De par sa fragilité et sa tendance innée à descendre plutôt qu'à monter, notre nature humaine est sujette à l'inconstance. Là, là, je veux bien, je veux pas, je sens pas. François de Sales ajoute: tenir ses résolutions, rester ferme dans ses propos, exige d'elle une grande force d'âme. C'est ce que Thérèse de Lisieux appelle entrer dans la monotonie du sacrifice, qui n'a rien à voir avec une vie monotone. Il va falloir descendre dans les choses qui se répètent, mais avec Jésus. Et comme c'est avec Jésus, c'est toujours nouveau. Je vais dire quelque chose en parallèle pour les couples qui sont ici. Chez les couples, c'est toujours les mêmes mots. Je t'aime, généralement. Mais si le couple s'aime, eh bien ces je t'aime sont toujours nouveaux, même 50 ans de mariage après. Pourquoi ? Parce que l'amour fait que c'est toujours nouveau. Et ce qui fait qu'on voit des couples très âgés, d'une délicatesse extrême et d'un amour extraordinaire que les jeunes couples n'ont pas parce qu'ils sont encore dans le tourbillon de la passion. Et c'est même chose chez les prêtres, chez les religieuses. Parfois, normalement d'ailleurs, une religieuse âgée devrait être plus amoureuse de son Seigneur qu'une religieuse jeune, que c'est beau quand nous en rencontrons un portrait. Et c'est là qu'on voit que la religieuse en question, ce n'est pas les rides qui la vieillissent, c'est le manque d'amour intérieur. Et ce qui fait qu'une religieuse âgée, regardez, Mère Teresa, excuse-moi, au niveau des rides, c'était pas mal. Hein, comme disait un prêtre, c'est pas trop canon, hein, Mère Teresa. Hein, au niveau de la beauté, selon Naomi Campbell, quoi, hein, ou Cindy Crawford, je connais mes classiques. Bon. Ben oui, mais un prêtre a dit ça, j'ai dû vous dire ça une fois. Elle n'est pas jolie, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Vous avez compris, mesdames? Vous avez compris. Ça rejoindra une chose très belle, très très belle, de la Sainte Vierge Marie, dans une apparition contemporaine. Un jour, un voyant lui demande « Maman Marie, pourquoi êtes-vous si belle ?» Réponse de la Sainte Vierge « Parce que j'aime. » Donc, les canons de la beauté style gala, s'il vous plaît, relativiser un peu. Avançons. Cinquième note. Rechercher la perfection dans la vie morale, la vie vertueuse, mais pas le perfectionnisme. La perfection, mais pas le perfectionnisme. Sous forme de slogan. Attention n'est pas tension. Vous notez bien la différence? Attention amoureuse n'est pas tension au sens de la rigueur, de la raideur. Transposé pour notre thème, recherche amoureuse de la perfection n'est pas perfectionnisme. Qu'est-ce qui caractérise le perfectionnisme? Attention, il ne faut pas se moquer de ces personnes-là, parce que c'est leur blessure à eux. Jésus va les faire saintes avec cette tendance au perfectionnisme, mais c'est douloureux à porter tant qu'on n'a pas basculé. Basculé dans quoi? Quelle est l'impasse du perfectionnisme? Le perfectionnisme, l'âme perfectionniste, elle est très généreuse généralement. Mais elle veut se faire sainte par sa propre vertu. Deuxièmement, une autre marque du perfectionnisme. La personne ne peut pas supporter la moindre de ses chutes et la moindre de ses ratés. C'est tout à fait dans la logique de la première proposition que je vous ai dit. Comme la personne a mis toutes ses œufs dans le panier de son fer, et qu'elle ne sait pas se laisser faire. Dès qu'elle tombe par terre, qu'elle manque de patience, c'est la catastrophe. Voilà. Et comment vous guérissez quelqu'un de perfectionniste? Par ses imperfections. Vous allez lui apprendre à négocier autrement ses chutes et ses péchés. Quand elle est tombée bien bas, vous allez lui proposer de tomber encore plus bas. Attention, je mets ça entre guillemets. Vous allez lui proposer, quand elle est tombée et qu'elle est désespérée et découragée d'elle-même, vous allez lui proposer de tomber plus bas, c'est-à-dire dans les mains de la miséricorde de Dieu. Une personne qui fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, je parle d'une expérience vraie, cette personne-là guérira du perfectionnisme. François de Sales. François de Sales est ami de la paix. Il aime les parcours tranquilles, qui ne veut pas dire « cool et je me laisse aller », mais tranquillité d'âme, qu'il est reposant. Notre père, François de Sales. En notre lutte spirituelle, il faut avoir le soin que Dieu veut que nous ayons de nous perfectionner. Et néanmoins, lui laisser le soin de notre perfection. Je crois que vous avez tout compris. Quand tu t'es raté, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Laisse-toi prendre. Laisse-toi aimer. Laisse-toi chérir par la miséricorde. Et une personne qui vit cela, à chaque chute, il n'est pas possible qu'au bout de quelques mois, va s'infléchir le mouvement de raideur intérieure et de détestation d'elle-même. On revient à cette histoire de Viktor Frankl, évoquée ce matin. Dieu, poursuit-il, veut que nous ayons un soin tranquille et paisible qui nous fasse faire ce qui est jugé propre. Quant au reste, que nous nous reposions en son soin paternel. Mes sœurs, on va vous quitter. Vous rappelez, je sais que vous aimez bien les petits travaux pratiques, ou du moins vous taquinez votre prédicateur à chaque fois. Vous n'avez pas tort. Il a ses marottes. Mais quand même, je relance. Chacune, et puis le Père Joël qui vous parle aussi. Voilà. Vous allez faillir. Qu'allez-vous faire de cela? Pas forcément des gros péchés, des trucs de rien du tout, mais vous allez faillir. Qu'allez-vous faire de cela? Allez-vous faire, allez, encore une séance de soi-disant, componction, réparation, contrition. C'est fait, faites-le une fois. Et puis après, Jésus, je te bénis d'être tombé. Parce que je fais l'expérience de la miséricorde, qui n'a rien à voir avec appeler un péché un bien. Ça restera toujours un mal. Mais la miséricorde est tellement puissante qu'elle est capable de s'en servir pour un plus grand bien, c'est-à-dire la guérison de ton perfectionnisme, de ta raideur, que je ne regarde pas de haut. Tout homme, moi aussi, j'ai dû guérir de cela. Pour que tu entres dans cette expérience que ton Dieu est un Père. Vas-tu vivre comme un petit enfant? Quel est le drame du perfectionnisme? Il passe son temps à ses pieds lui-même, à se juger, à se condamner. Écoutez, François. Vous demandez si on peut savoir si on avance à la perfection ou non? Je réponds, dit-il à ces religieuses, que nous ne connaîtrons jamais notre propre perfection. Voilà pourquoi ça ne sert à rien. Il ajoute, car il nous arrive, comme à ceux qui naviguent sur la mer, ils ne savent pas s'ils avancent. Mais le pilote qui connaît l'air où les navigues, le connaît. Le pilote, c'est Dieu. Laisse le bon Dieu pilote te piloter. Ainsi, nous ne pouvons pas juger de notre propre avancement. Il ajoute dans un autre ouvrage, « Pas d'inquiétude si nous nous trouvons toujours novices dans la pratique des vertus. » Ça va, mes sœurs, qui avaient le voile noir, hein? Vous êtes toujours novices. Au monastère de la vie dévote, nous sommes toujours novices. Oh, François de Sales. Quelle est la grâce à demander? La patience avec soi-même. Je vous ai évoqué ce matin la patience comme moelle de l'amour fraternel des personnes avec qui on vit. Et si vous avez bien entendu que le premier proche prochain, c'est moi vis-à-vis de moi-même, je vais vous dire, vous enclencherez une vitesse turbo, mais vraiment, je ne dis pas ça pour la formule convenue, vous enclencherez une vitesse extrêmement rapide, quand vous développerez la patience avec vous-même et préparez-vous à chuter jusqu'à votre dernier souffle. Pas forcément de choses dégoûtantes, de choses graves, mais des choses style impatience, Il dit « Il y aura un grand danger pour l'âme qui a longtemps servi ses passions, de devenir orgueilleuse et vaine, si elle devenait parfaitement maîtresse d'elle-même en peu de temps. » En gros, je deviendrai vertueux en peu de temps et au bout d'un moment, je n'aurai plus besoin de Dieu puisque je serai vertueux par moi-même. Et il ajoute, il faut avoir patience avec tout le monde, mais premièrement avec vous-même. Éloge de la lenteur. Je me souviens de cet autre prêtre, vieux prêtre, qui a donné à ce même jeune prêtre, si j'ai bonne mémoire, qui allait être ordonné. « Tu vas devenir prêtre !» Puis il lui dit son prénom. « N'oublie pas, dans ta pastorale, les gens avancent très lentement, et toi le premier. » Je vois l'heure qui avance. Deuxième grande partie. Pratiquer l'humble vertu de l'humilité. Je vous ai évoqué la vertu de douceur, si caractéristique de notre François de Sales. Il nous faut parler de l'humilité. L'humilité a énormément à voir avec la douceur. Je vais vous donner un exemple. Vous avez quelqu'un qui est un peu brutal. Voilà. Vous avez deux solutions, soit vous réagissez de la même manière qu'il est. Si vous voulez être doux alors qu'il est en train de... la cocotte, le lait va passer sur le feu, comme on dit. Elle va passer sur la cocotte, ça va déborder. Je sens que je vais m'énerver. Cette douceur n'est pas possible si je n'ai pas l'humilité de me laisser monter sur les pieds par les personnes. Et inversement, l'humilité nourrit la douceur nourrit l'humilité. Il écrit, François de Sales, à celle qui va devenir la future Jeanne de Chantal, car elle est à l'époque l'épouse, veuve avec ses enfants, il lui dit qu'il faut rechercher les vertus cachées. Les vertus de tous les jours, dit-il, cheminons par ces basses vallées des humbles et petites vertus. Et Jeanne, des années après, en évoquant son bienheureux père qu'elle aimait tant, mais d'un amour d'une extrême pureté, il est mort et elle dit, notre bienheureux père voulait que nous soyons dans l'église de Dieu comme de petites violettes, sans éclat, sans apparence extérieure. Vous êtes quand même pas mal. Il y a quand même de l'apparence extérieure, ne serait-ce que votre habit. Pourquoi désirer l'humilité? Parce que, dirait la grande Thérèse d'Avila, qui était une des, aussi des maîtresses spirituelles de François de Sales, l'humilité, c'est la vérité. Mais la vérité de quoi? La vérité que de nous-mêmes, nous n'avons rien de bon. Mes amis, aucun acte bien que tu fais, bien sûr, il vient de toi. J'entends bien, je ne suis pas en train de déprécier la nature humaine, mais aucun acte que tu peux poser qui est bon, n'a Dieu que pour origine. N'a que Dieu, pardon, pour origine. Par contre, le péché, lui, ne peut jamais venir de Dieu, car il est un être sans péché. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous enorgueillir de nos vertus et de nos belles actions, parce que nos belles actions, nous ne sommes que des collaborateurs. C'est lui qui est à l'origine. Voici la vision que notre doux François a de l'humilité. Bon, il ne tourne pas avec le dos de la cuillère, Mais nous sommes, comment dire, tellement loin, tout en étant, comme on le prétend aujourd'hui, au plus proche de l'Évangile. Vous savez, ces discours qu'on entend à Tours-Larigot, « Ah, vous savez, moi je suis de Vatican II, je suis au plus près de l'Évangile. » Mais c'est d'un aveuglement terrible que de ne pas voir la crise actuelle, doctrinale, et comment sur certains points nous sommes en deçà de l'Évangile. Sur certains points, nous sommes en retard par rapport aux générations passées qui ne connaissaient pas Vatican II. Ben, je vais vous donner un exemple. Regardez comme ce que va dire François de Sales dans une certaine sphère de l'Église catholique aujourd'hui, certaines communautés, c'est irrecevable. Il dit « L'humilité n'est pas autre chose qu'une parfaite reconnaissance que nous ne sommes rien, qu'un pur néant, un néant, et elle nous fait tenir en cette estime de nous-mêmes. » Un prêtre qui, sans précaution, dirait ça dans une homélie aujourd'hui, je vous le donne en mille, il y a des lettres à l'évêque. Notre curé a une vision extrêmement pessimiste de la nature humaine. On en est là. Non, on est en deçà de toute la tradition spirituelle des saints. Et il nous faut retrouver la sagesse spirituelle des saints pour nous réaligner à l'Évangile dont nous prétendons que nous savons mieux l'observer que les générations passées. Nous nous trompons. Il y a une forme d'aveuglement dans ce domaine. Est-ce que François de Sales est pessimiste? Est-ce que Jeanne de Chantal, qui tient le même discours, est pessimiste quant à la nature humaine? Non. Je vous ai dit, l'humilité n'est rien d'autre que la vérité. La personne qui ne peut pas entendre que tout acte bon ne vient pas d'elle au sens de la source, mais de Dieu, et qu'elle n'est que collaboratrice, et que ce qui lui revient en propre, c'est le péché. Cette personne-là, on ne va pas lui dire, mais à l'évidence, n'a pas fait l'expérience de la grâce gratuite de Dieu. Elle ne sait pas qui est Dieu. Et ce genre de personnes, bien sûr, dans les paroisses ou dans les communautés, sont les premières à vous donner des leçons qu'il faut accepter, parce que souvent c'est la seule manière de les faire évoluer. Il faut qu'on se laisse monter par les pieds, sur les pieds, par des gens pareils qui n'y connaissent rien, mais qui vous disent ce qu'est la vérité. En fait, ces pauvres personnes ne font que régurgiter l'esprit du temps, le catholiquement correct qui a envahi une partie de l'Église. François de Sales, toujours avec ce langage très simple. C'est une parole qui m'a donné souvent à penser. Deux points. Toutes les créatures ne sont rien devant Dieu. Jeanne, un ses sœurs. Donc Jeanne, c'est François. Et François, c'est Jeanne. Cette pensée, mes sœurs, est salutaire parce qu'elle porte puissamment l'âme à la connaissance de sa bassesse. Elle rapporte les paroles de son bon père. C'est connaître ma bassesse, c'est n'être pas bête. Vous ne trouvez pas ça? Autrement dit, penser qu'on pourrait produire des actes bons sans Dieu, c'est la bêtise incarnée, quoi. C'est l'aveuglement total, quoi. Avançons. Deuxième note sur l'humilité. Seule l'humilité attire Dieu dans l'âme. Ça, c'est extrêmement important, parce que je suppose que vous êtes comme moi, vous voulez Dieu. Et vous voulez vous laisser prendre par Dieu. Eh bien, entrons dans l'humilité. Juste une précision. L'humilité n'est pas la dépréciation de soi-même. L'humilité n'est pas du genre, vous savez, cette fausse humilité. « Oh, vous savez, mon Père, moi, j'ai aucune qualité. » Mais la Vierge Marie, qui est l'humilité même, que chante-t-elle dans le Magnificat ?« Mon âme exalte le Seigneur, je suis une bonne à rien. » Non, pas du tout, pas du tout. Elle dit « Le Seigneur fit pour moi des merveilles. » Une personne incapable de nommer les merveilles qu'il y a dans sa vie n'est pas humble. C'est une humilité à crochet. C'est un faux orgueil. Tiens, mes sœurs, je vous donne une petite piste pour votre prochaine récréation. Vous ferez un tour de table quand vous ferez les haricots verts, quand ce sera la saison. Puis vous demanderez à chaque sœur. Chaque sœur nomme deux qualités d'elle-même, deux charismes, deux dons, vous l'appellerez comme vous voudrez. Et puis elle nomme deux travers, deux limites. Vous verrez comme au nom de la soi-disant humilité, nous n'avons pas de problème pour nous trouver des défauts, mais nous avons des problèmes pour trouver nos qualités et les nommer devant tout le monde comme si c'était de l'orgueil. Non. Puisque vous êtes persuadé que ça vient de Dieu, ben vous rendez au patron ce qui lui appartient. Mère de Chantal. Oh, si nous pouvions une fois acquérir cette vertu de l'humilité, nous aurions bientôt toutes les autres. Vous comprenez pourquoi, dans la grande tradition spirituelle, l'humilité attire puissamment Dieu. En quoi ? Le langage populaire le dit. Avez-vous remarqué, quand on parle d'une personne qui est vraiment prétentieuse, qui se la ramène tout le temps, qui étale la confiture, comme on dit dans le langage académique, qui s'étale beaucoup, tout ce que vous voulez, on dira... Or, cette personne, elle est pleine d'elle-même. Vous avez entendu ça? Eh bien, traduisez, appliquez cela. Jésus dit à la personne qui n'est pas humble, puisqu'elle est pleine d'elle-même, « Je ne peux pas rentrer chez toi, il n'y a plus de place, c'est plein. » Et donc, curieusement, l'humilité, ce n'est pas « je suis bonne à rien », c'est bah, « c'est Jésus à Catherine de Sienne ». Fais-toi capacité, je me ferai torrent et je vais m'envahir. Et donc, vous avez, comment vous allez pratiquer l'humilité ? Ben moi, je l'ai fait, je le dis bien humblement. Ce matin, j'étais mort hier, mais quand je dis mort, c'est mort de chez mort. Je n'ai pas pu travailler hier soir. Puis je dis, Jésus, j'ai une homélie à faire demain, puis il y a du monde, il faut quand même que je sois sérieux, quoi. Et puis je dis, bon d'accord, je te fais confiance. Et je n'ai ouvert, j'ai regardé la parole de Dieu, qu'un moment, et puis j'ai lu, je voyais rien. Qu'est-ce que c'est l'humilité ? Ça a été ceci, je l'ai pratiqué. Je vois rien Jésus, excuse-moi. Mais je vois rien. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise ? Et après, non, les trois points sont tombés. C'est ça, l'humilité. C'est pas être une carpette. L'humilité, c'est la vie dans l'esprit. Je sais pas, mais toi, tu sais. Qu'est-ce que je dois dire ? Je ne sais pas, mais toi, tu sais. Je ne sais pas quoi penser face à telle situation, mais toi, tu le sais. Que cette voie est libérante, parce qu'on permet à Dieu de prendre toute la place. Vous voyez ? Vraiment, les amis, l'humilité n'est pas être une carpette. L'humilité est une capacité pour que Dieu devienne torrent. J'arrête sur cette parole, il est l'heure, parce que nous avons commencé un petit peu avant l'heure. François de Sales. Il n'y a que les humbles qui glorifie et honore Dieu comme il faut, parce que reconnaissant d'eux-mêmes que d'eux-mêmes, pardon, ils ne sont rien et ne peuvent rien de bon, ils rendent à Dieu l'honneur et la gloire de tout ce qu'ils font de bien, connaissant et confessant qu'il est la source et l'origine de toutes les grâces et vertus. Cela nous permet de conclure. L'humilité, c'est quoi ? En amont, l'appeler en tout, dans les moindres situations. Quand vous avez quelqu'un au téléphone qui est pas trop gentil, hein, vous avez peur de perdre la paix. J'y arrive pas, donne-moi le ton. Ensuite, quand ça s'est produit et que vous êtes bouleversé, moi je suis bouleversé. Ce matin, par exemple, et vous, je vous assure, et ça c'est, je sais que je suis humble en le disant. Ce matin, quand j'ai terminé l'homélie, qu'est-ce que j'ai fait en rentrant à la place ? Oh, je te bénis, Jésus. Je te bénis, mais pas pour la formule de sorte de convenance. Je te bénis. C'est comme si j'étais le premier enseigné de ce que je disais. Et donc, l'humilité appelle en amont. Et quand on a fait, on ne peut pas dire orgueil parce qu'on lui rend, parce qu'on sait que c'est lui le propriétaire. Et cela crée une légèreté dans l'être, une joie de vivre. Vous allez vous enlever tellement de soucis, tellement de cheveux blancs. Pourquoi nous en avons ? Pourquoi nous sommes obligés de nous faire teindre les cheveux ? Pas pour moi. Mais parce que nous voulons être à la fois la créature et le bon Dieu. Mais que c'est reposant d'être créature et de laisser le bon Dieu être bon Dieu.